Toi, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, bonjour et joyeux Noël à tous. Jean-Roger Billon à ce micro. Édition spéciale en ce lundi 26 décembre 2022, en raison du jour de la nativité, férié aux États-Unis. Dans moins de 5 minutes, nous retrouverons Lionel Gaïma pour revisiter les faits marquants de l'année écoulée. Mais avant, je vous propose un bulletin de nouvelles. À nouveau, bonjour. Le chroniqueur sénégalais Pape Alé Niang, renvoyé en détention depuis 6 jours, a été évacué dans un hôpital. Pape Alé Niang est très éprouvé par sa grève de la faim qu'il observe depuis sa nouvelle incarcération mardi 20 décembre, a fait savoir l'un de ses avocats, Maître Moussa Sarr, confirmant une information de la coordination des associations de presse, une confédération syndicale locale. Patron du site d'information Dakar Matin, M. Niang avait été renvoyé en prison le 20 décembre, après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre pour des informations de nature à nuire à la défense nationale au Sénégal. Le bilan de l'explosion samedi d'un camion-citerne de gaz près de Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est aggravé à 15 morts, a annoncé dimanche le ministre sud-africain de la Santé, contre 10 la veille au soir. Très tôt samedi, à la veille de Noël, le camion s'était retrouvé coincé sous un pont dans le quartier résidentiel de Bosberg, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg. Le camion-citerne était vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit. Il était rempli de 60 000 litres de gaz GPL utilisé pour cuisiner, selon le porte-parole de la police. Le conducteur figure parmi les blessés. En Tunisie, le Forum pour les droits économiques et sociaux a dénoncé dimanche la décision inhumaine et répressive du gouvernement d'expulser un groupe de 25 migrants clandestins arrivés en Tunisie en 2011. Ce groupe occupe depuis plus de 5 ans une maison de jeunesse à la Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, entravant ses activités par leur refus catégorique de quitter ce lieu, selon un communiqué de la présidence et du gouvernement. Ces 25 migrants sont tous de sexe masculin et comprennent des Égyptiens, des Soudanais, des Nigériens et Nigériens âgés de 30 à 32 ans qui avaient fui les tensions en Libye en 2011 et résident depuis 2017 dans cette maison de jeunesse après avoir été évacués du camp de réfugiés de Choucha dans le sud de la Tunisie. Ici, aux États-Unis, la violente tempête hivernale qui s'est abattue sur le pays, provoquant de fortes chutes de température des grandes plaines du nord jusqu'à la frontière avec le Mexique, a entraîné la mort d'au moins 30 personnes. Plus de 150 000 foyers et entreprises étaient privées d'électricité sur la côte est des États-Unis, au Texas et dans l'État de Washington, contre 1,8 million la veille.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
71 appareils de l'armée chinoise, dont des drones et des avions de chasse, ont franchi la zone de défense aérienne de Taïwan au cours des 20 dernières heures, a indiqué ce lundi le gouvernement taïwanais, ce qui constitue la plus importante incursion chinoise à ce jour. Parmi ces appareils, 43 avions de chasse chinois ont traversé la ligne de démarcation du détroit de Taïwan, a précisé le ministère taïwanais de la Défense, alors que la Chine continue ses manœuvres militaires près de l'île qu'elle considère comme une province renégate. Trois grandes organisations non gouvernementales internationales ont déclaré dimanche qu'elles suspendaient leurs programmes humanitaires en Afghanistan en réponse à l'ordre donné par les talibans d'interdire au personnel féminin de travailler. Le ministère afghan de l'économie a ordonné samedi à toutes les ONG locales et étrangères d'empêcher leur personnel féminin de travailler jusqu'à nouvel ordre, citant le non-respect du code vestimentaire islamique pour les femmes des talibans, une décision condamnée dans le monde entier. Trois ONG, Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Care International, ont déclaré dans un communiqué commun qu'elles suspendaient leur programme en attendant que l'ordre de l'administration soit clarifié. Et puis l'auteur de la fusillade qui a fait 3 morts vendredi à Paris, à proximité d'un centre culturel kurde, est reparti en garde à vue et sera présenté à un juge d'instruction ce lundi. L'auteur présumé de l'attaque avait été transféré samedi à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Dans un instant, vous retrouverez Lionel Gaïma, c'est pour la rétrospective 2022, une édition spéciale de VOA Afrique en ce jour de fête. Merci de nous suivre. À tout à l'heure pour le prochain programme.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue sur VOA Afrique, voafrique.com et sur toutes nos plateformes digitales. Lionel Gaïma à la présentation. Au cours des 25 prochaines minutes, je vous propose de revisiter certains des grands événements qui ont marqué l'année qui s'écoule. Rétrospective 2022, c'est sur VOA Afrique. On commence par l'actualité américaine. Lorsque le président Joe Biden est entré en fonction au début de l'année 2021, il espérait rétablir la confiance en la démocratie américaine après les fausses allégations d'un vote présidentiel volé en 2020, puis l'insurrection du Capitole le 6 janvier. Près de deux ans plus tard, la correspondante diplomatique de la VOA, Cindy Sen, se penche sur le bilan de l'administration en matière de renforcement de la démocratie aux États-Unis et à l'étranger. Michel Joseph.
Le président Joe Biden et son parti démocrate ont conservé leur majorité au Sénat, mais ont perdu la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, un résultat meilleur que prévu. Une autre victoire pour le président est que les électeurs ont rejeté de nombreux candidats qui ont fait campagne en avançant le récit mensonger selon lequel l'élection présidentielle de 2020 a été truquée.
Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes.
Depuis l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole, plus de 900 personnes ont été inculpées pour cet acte. Et l'ancien président Donald Trump fait face à des déboires juridiques dans de multiples affaires. Les deux partis ont largement accepté les résultats des élections de mi-mandat de 2022, ce qui a conduit certains analystes, comme le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, à conclure que les institutions démocratiques américaines tiennent bon.
Il s'est passé quelque chose de tout à fait remarquable, où des républicains, des démocrates et des indépendants de principe se sont réunis, ont identifié les plus grandes menaces à notre capacité fondamentale de transférer légitimement le pouvoir, qu'ils soient candidats au poste de responsable électoral dans les États, de trésorier, de membres du Congrès ou de sénateurs, et ils ont voté contre chacune de ces menaces, les battant pratiquement toutes.
À l'étranger, M. Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken affirment que la répression des manifestations de rue en Chine et en Iran, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettent en évidence la lutte mondiale entre la démocratie et l'autoritarisme.
Le leadership américain doit faire face à ce nouveau moment de progression de l'autoritarisme, y compris les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et la détermination de la Chine à endommager et à perturber notre démocratie.
Mais un analyste a déclaré à la VOA que la politique américaine ne correspond pas toujours au cadre pro-démocratique du président lorsqu'il s'agit de contrer les régimes autoritaires dans des endroits comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Dalibor Rohak, du groupe de recherche American Enterprise Institute, nous en dit plus.
Ce n'est donc pas que le cadre est mauvais, mais plutôt que nous n'avons pas accompagné cette stratégie de politique efficace, comme des efforts de libération du commerce qui apporteraient des avantages tangibles aux populations en Inde et en Indonésie, par exemple, qui travaillent plus étroitement avec les États-Unis.
D'autres critiques disent que le président Biden devrait s'exprimer avec plus de force sur des questions telles que les protestations en Chine contre les politiques répressives de lutte contre le Covid ou les rassemblements anti-hijab en Iran déclenchés par la mort en garde vue de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans. L'ancien vice-président Mike Pence a exhorté la Maison-Blanche à s'exprimer davantage, rappelant que l'ancien président Barack Obama a admis avoir commis une erreur en ne s'exprimant pas lors de manifestations similaires en Iran en 2009.
J'ai bon espoir que le président Biden prendra ce conseil, si ce n'est de moi, alors du président avec lequel il a servi, et qu'il laisse l'Amérique s'exprimer et parler au nom des gens en Chine.
Les experts ne s'accordent pas sur la meilleure façon pour le président Biden de persuader d'autres pays de renforcer la démocratie. Certains suggèrent que la guerre de la Russie en Ukraine a été si déstabilisante que l'administration Biden ferait mieux de présenter la lutte mondiale contre les autocrates comme un choix entre stabilité et instabilité.
Vous écoutez VOA Afrique Rétrospective 2022.
Alors que les deux présidents les plus âgés de l'histoire des États-Unis pourraient se représenter en 2024, les Américains posent le débat sur l'âge de leurs dirigeants. Reportage Anita Power, suivant ce récit de Gabi Dorsil.
En politique, l'âge est bien plus qu'un chiffre. C'est un sujet de discussion. Prenez la récente réponse du président Joe Biden à une question sur son aptitude à exercer ses fonctions. Blague à part, Biden a 80 ans. Cela fait de lui l'un des dirigeants démocratiquement élus les plus âgés du monde.
Je me sens en pleine forme. Rien n'a changé. Nous sommes en bonne forme et donc, vous savez, j'ai hâte de fêter mon 58e anniversaire.
Son plus grand rival, l'ancien président Donald J. Trump, a 76 ans. Et jusqu'au mois prochain, le troisième poste électif le plus important est occupé par Nancy Pelosi, 82 ans. Elle a annoncé qu'elle va quitter son rôle de présidente de la Chambre.
Je ne chercherai pas à être réélue à la tête du Parti démocrate lors du prochain Congrès. Pour moi, l'heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate que je respecte si profondément. Et je suis reconnaissante que tant de personnes soient prêtes et désireuses d'assumer cette énorme responsabilité.
Les historiens disent que l'âge a longtemps été utilisé comme une matraque dans la politique américaine, une arme brandie par tous les camps pour remettre en question la capacité des adversaires à relever les défis d'un travail exigeant. La question la plus importante, selon les experts, est l'effet des dirigeants plus âgés sur la continuité politique, par à l'Université du Texas à Austin.
Le problème des dirigeants qui s'accrochent si longtemps est qu'ils ont tendance à ne pas préparer des successeurs efficaces d'âge moyen, car si ces successeurs étaient là, puissants et au pouvoir, ils remplaceraient ceux qui les ont précédés. Nous allons donc voir un saut de ceux qui ont 70 ans à ceux qui ont 40 ans dans beaucoup de nos partis.
Certains de ces candidats plus âgés disent être encore en pleine forme. Les partisans de Donald Trump disent qu'il est apte et que c'est Biden qui est fragile. Hogan Gidley a été secrétaire de presse adjoint de la Maison-Blanche sous Donald Trump.
Vous avez besoin de la sagesse de quelqu'un qui a fait le tour du quartier plusieurs fois. Et donc, si vous avez besoin de la jeunesse physique que Donald Trump a, vous avez également besoin de sa sagesse.
Selon lui, il y a beaucoup de personnes de plus de 80 ans et même de plus de 90 ans qui sont aussi bonnes et futées que jamais. Biden n'en fait pas partie, dit-il, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec son âge. En réalité, la vie commence à 80 ans. Donald Trump, lui, estime plutôt que l'âge est un état d'esprit. En réalité, l'Américain moyen vit jusqu'à un peu plus de 76 ans, selon les centres de prévention et contrôle des maladies. Pour Jeremy Suri, c'est le grand écart d'âge entre les électeurs et les dirigeants qui pose problème.
L'un des défis de Biden est qu'étant donné qu'il est beaucoup plus âgé que l'électeur démocrate moyen, il a parfois du mal à susciter l'enthousiasme. Nous avons effectivement vu plus de jeunes voter lors de cette élection de mi-mandat, mais il ne semble pas qu'ils aient voté comme de grands fans de Joe Biden.
Une autre réalité de la présidence américaine, c'est qu'elle vous fait vieillir très rapidement. Pour exemple, Barack Obama et Bill Clinton, à leur arrivée à la présidence, ils avaient les cheveux noirs. Mais 8 ans après, ils ont quitté avec des cheveux blancs ou même avec un début de calvitie.
Allons maintenant en Afrique, où les pays du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont enregistré une augmentation de 50% de décès dus au conflit selon les chiffres de Armed Location and Event Data Project. Au fur et à mesure que la violence est propagée, l'influence et l'instabilité politique de la Russie se sont également étendues avec une augmentation de coups d'État et du nombre de personnes déplacées. Reportage de Henry Wilkins à Niamey au Niger, récit de Nani Talani.
Alors que le conflit du Sahel occidental entrait dans sa 11e année en 2022, la violence s'est aggravée. Les données de Armed Conflict Location and Event Data Project montrent environ 9 000 décès dus au conflit en 2022 contre environ 6 000 l'année précédente. Les analystes affirment que beaucoup de personnes dans les pays du Sahel sont épuisées par l'aggravation du conflit que cette vidéo sur les réseaux sociaux prétend montrer. Et ils se tournent vers de nouveaux partenaires internationaux pour trouver des solutions. Certains, comme Bachirou Ouédraogo au Niger, pensent que la Russie remédiera à l'insécurité du Burkina Faso.
Si tu es avec quelqu'un et que ton problème n'arrange pas, il faut le débarrasser et puis tu cherches quelqu'un qui va t'aider à arranger ton problème.
2022 a également vu la France terminer l'opération Barkhane, son intervention militaire basée au Mali, alors qu'elle devenait de plus en plus impopulaire et que les relations avec la junte militaire malienne commençaient à se détériorer. Interrogé sur la manière dont le conflit du Sahel pourrait se développer en 2023, un analyste a déclaré à la VOA:
ce qui reste à voir, c'est ce qui se passe pendant que la population du Mali comprend que les choses empirent malgré tout. Le Burkina Faso, je m'inquiète beaucoup. Je pense qu'étant donné l'ampleur du problème au Burkina Faso, je crois qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'aide internationale. J'aimerais voir le gouvernement américain s'impliquer davantage pour aider le gouvernement burkinabé.
Les analystes ont également noté qu'un nombre croissant d'attaques terroristes ont lieu dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, ainsi que le long des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. La liberté de la presse a diminué selon les groupes de défense. Daouda Diallo dirige un groupe burkinabé de défense des droits, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Parallèlement à cette dégradation de la situation sécuritaire, il y a les cas de violation des droits humains aussi qui ont gagné du terrain.
Au Burkina Faso, la nouvelle junte affirme qu'elle recrute 30 000 volontaires civils supplémentaires pour lutter contre le terrorisme. Mais les groupes de défense des droits soutiennent que les volontaires commettent de nombreuses violations, faisant le jeu des recruteurs de groupes terroristes. Au total, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Sahel.
Les Nations Unies affirment que les prix élevés des denrées alimentaires en 2022 ont conduit à une crise d'accessibilité qui a poussé des millions de personnes supplémentaires dans la famine. La correspondante de la VOA à l'ONU, Margaret Bashir, s'est entretenue avec des experts sur la situation et les attentes pour 2023. Gabi Dorsil pour le récit.
349 millions, c'est le nombre de personnes sur la planète qui ne savent pas où elles trouveront leur prochain repas, selon le PAM, le Programme alimentaire mondial. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'agence affirme que d'ici la fin de cette année, elle aura nourri un nombre record de 150 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Les experts indiquent qu'une combinaison de facteurs est à l'origine de l'insécurité alimentaire. La pandémie de COVID-19, les conflits, les chocs climatiques, y compris les inondations et les sécheresses, le coût de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Arif Hussein est économiste en chef au Programme alimentaire mondial.
But even before the war in Ukraine, the food prices were at a 10-year high.
Mais même avant la guerre en Ukraine, les prix des denrées alimentaires étaient au plus haut depuis 10 ans. Le coût du carburant était à son plus haut niveau depuis 7 ans. On parlait déjà d'inflation. Alors, quand cette guerre est arrivée en Ukraine, elle a tout amplifié.
En partie parce que l'Ukraine et la Russie sont des greniers pour des dizaines de pays. Écoutons Will Martin de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington.
Ukraine and Russia are important players in production, world wheat production. Their market shares are about 4% and 8%.
L'Ukraine et la Russie sont des acteurs importants de la production mondiale de blé. Leurs parts de marché sont d'environ 4 et 8% et une part beaucoup plus importante dans les exportations mondiales. Donc, si vous n'avez pas de grains qui circulent librement du bassin de la mer Noire, vous allez avoir de gros problèmes à l'extérieur.
La guerre a également fait grimper les prix de l'énergie par crainte de rupture d'approvisionnement et de sanctions sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Les prix des engrais ont augmenté de 250% par rapport à 2019, selon l'ONU. La moitié de la production alimentaire mondiale dépend des engrais et les petits agriculteurs, qui n'ont pas les moyens d'en acheter suffisamment, ont vu leur récolte diminuer. De nouveau, Arif Hussein du PAM.
Right now, with all that is happening, we are looking at.
En ce moment, avec tout ce qui se passe, nous assistons essentiellement à un manque d'environ 66 millions de tonnes d'aliments de base en raison de la pénurie ou du caractère inabordable des engrais. Je parle de cultures comme le blé, le maïs, le riz. Alors que 66 millions de tonnes de nourriture, c'est assez pour nourrir 3,6 milliards de personnes pendant un mois.
Face à la montée de l'insécurité alimentaire, l'ONU a récemment nommé son premier coordinateur de prévention et de réponse à la famine pour diriger ses activités à l'échelle du système.
Vous êtes sur VOA Afrique, rétrospective 2022.
Il y a 3 ans, des scientifiques de Wuhan, en Chine, ont signalé pour la première fois des infections dues à un nouveau coronavirus. Depuis lors, le monde a mis au point et administré 13 milliards de vaccins contre le Covid-19. C'est une réussite sans précédent, mais elle a été ternie par un accès inégal. Le programme mondial visant à améliorer l'équité en matière de vaccins a annoncé qu'il allait se concentrer sur les pays les plus pauvres. Steve Baragona de VOA nous parle de la campagne mondiale de vaccination Covid alors que la pandémie, responsable de 6,5 millions de décès, entre dans sa 4e année. Récit Arzuma Compaoré.
24 février 2021. Une livraison de vaccins Covid-19 arrive au Ghana dans un effort d'équité en matière de vaccins. Anne-Claire Dufay, représentante de l'UNICEF, était là pour les accueillir.
Nous sommes vraiment heureux car ils iront à un grand nombre de bénéficiaires au Ghana. Le Ghana est le premier pays à recevoir les vaccins COVAX.
Le programme COVAX, soutenu par les Nations Unies, avait pour but d'aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à accéder aux vaccins après que les pays riches ont acheté la plupart des premiers vaccins. Le programme a dû se battre pour obtenir les doses limitées. Après avoir livré près de 2 milliards de doses, le programme COVAX a réduit son champ d'action pour servir les pays les plus pauvres. Cela en partie parce que 2 ans plus tard, il y a beaucoup de vaccins disponibles. Cependant, tout le monde ne les reçoit pas, selon Krishna Uddikumar, professeur de santé mondiale à l'université Duke.
Les inégalités sont vraiment flagrantes et continuent. En Afrique, seuls 25% de la population de l'ensemble du continent sont entièrement vaccinés, contre plus de 75% dans des endroits comme l'Amérique du Sud.
L'offre n'est plus le gros problème, c'est la demande qui l'est. Selon Janine Madan-Keller, spécialiste de la santé au Centre pour le développement global, les habitants des pays à faible revenu ne font pas la queue pour se faire vacciner contre le Covid.
Ce manque de demande est vraiment une tendance inquiétante que nous observons. Les raisons de cette faible demande, je dirais, sont assez complexes et à multiples facettes.
Les informations erronées sur les vaccins sont monnaie courante. La confiance dans les gouvernements qui fournissent ces vaccins est faible. Et beaucoup de personnes dans les pays à faible revenu ne voient pas le Covid comme une menace. De plus, les vaccins ont mis trop de temps à arriver.
Alors qu'il y avait une demande, elle n'a pas été satisfaite. Il est donc raisonnable de constater aujourd'hui une plus grande hésitation, car nous avons manqué le moment où tout le monde était prêt à accepter de se faire vacciner.
Ce retard s'explique en grande partie par le fait que la fabrication des vaccins est concentrée dans quelques pays, pour la plupart riches. Les nations les plus pauvres ont été laissées dans l'attente d'une aide financière, explique Jennifer Nuzzo, directrice du centre de pandémie de Brown University.
Je pense que nous devons trouver le moyen de produire ces vaccins de manière beaucoup plus répartie qu'auparavant, afin de ne pas dépendre uniquement des dons. Il est clair que les dons ne fonctionnent pas car face à une crise, les pays choisiront toujours de donner la priorité à leur propre population.
Des efforts sont en cours pour construire davantage de laboratoires pour faire des vaccins en Afrique. Mais leur construction n'est qu'un début. Comment les maintenir en activité à long terme est une autre question, dit Keller.
Qui va acheter ces vaccins? Ou encore, quels sont les vaccins qu'il est judicieux d'un point de vue économique, mais aussi sanitaire, de produire? D'où viendra l'argent pour les payer?
L'Union africaine est confrontée à ces questions alors qu'elle vise à fabriquer 60% de ses vaccins de routine sur le continent d'ici 2040. Le défi consiste à construire une industrie durable, capable de gérer à la fois les vaccins ordinaires et l'inévitable prochaine pandémie.
Termine cette rétrospective avec le décès de la reine Elisabeth II, survenue en septembre après 7 décennies sur le trône. Son décès a été pleuré dans le monde entier et ses funérailles ont été suivies par des millions de personnes. Henry Ridgewell revient sur cette période extraordinaire de l'histoire de l'Empire britannique. Le récit est de Rosine Munezero.
Son dernier devoir en tant que chef d'État, la reine Elisabeth II a officiellement demandé à Liz Truss de former un nouveau gouvernement le 6 septembre. Son visage a gardé la luminosité familière, mais sa fragilité est évidente. 2 jours plus tard, dans la soirée du 8 septembre, on annonce que le plus ancien monarque de Grande-Bretagne est décédé dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Il avait 96 ans.
It was a very considerable shock.
Ce fut un choc très considérable parce que même s'il était clair depuis quelques heures que c'était presque certain, c'est ce que la nation redoutait d'attendre.
This was what the nation dreaded to hear.
Si la fin d'une époque extraordinaire, il avait servi 70 ans sur le trône, nommé 15 premiers ministres et voyagé dans 106 pays en tant que chef d'État britannique. Sa mort a déclenché 11 jours de faste et de cérémonies méticuleusement planifiées et de deuil à travers la nation, le Commonwealth et le monde.
C'est comme si ça n'avait pas encore frappé. C'est juste très étrange. C'est un sentiment très étrange.
Bouleversé, ému, je me demande ce qui va se passer ensuite.
God save the king.
God save the king.
Le premier fils d'Elisabeth monte sur le trône à sa mort, devenant le roi Charles III.
To my darling mama,
à ma chère maman, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je veux te dire ceci. Merci. Merci pour ton amour et ton dévouement à notre famille et à la famille des nations que tu as servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des cœurs angéliques t'accompagnent jusqu'à ton repos.
Le corps d'Elisabeth est conduit à travers les Highlands écossais jusqu'à Édimbourg, puis à Londres. Au palais de Buckingham, la famille royale a fait des adieux privés. Son corps a été transporté en calèche jusqu'à Westminster, où le public a pu lui rendre hommage pour pleurer sa matriarche. Les files d'attente pour voir le cercueil s'étendent sur plusieurs kilomètres.
Je pense qu'il est important pour nous de marquer cette occasion parce que c'est une partie énorme de l'histoire.
18 monarques, 55 présidents et 25 premiers ministres ont assisté aux funérailles.
Je pense que la façon dont les funérailles de la reine ont été menées pendant cette période à Edinburgh, à Londres et à Windsor fera partie de l'iconographie de la Grande-Bretagne et aussi de celle du Commonwealth. Le fait que cela ait été fait avec une telle précision, un tel kaléidoscope de couleurs et que cela ait été si émouvant.
Elisabeth a été enterrée dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, aux côtés de son époux bien-aimé, le prince Philippe. Le roi Charles a hérité d'un pays politiquement divisé qui a perdu sa figure de proue tant appréciée. Son plus grand défi est de faire en sorte que la monarchie reste pertinente alors qu'elle est en proie à des troubles familiaux et à un examen approfondi. Son couronnement est prévu pour mai 2023.
Voilà, fin de cette rétrospective de l'année 2022. À la présentation, Lionel Gaïma. Au nom de toute l'équipe technique, je souhaite une très bonne année 2023 et nous espérons que vous serez encore plus nombreux à nous suivre sur FM, en ondes courtes, à travers nos chaînes partenaires et sur nos différentes plateformes digitales.